Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Créé par François Allais, ce podcast va à la rencontre d'entrepreneurs au parcours inspirant. Ils ont une histoire unique, ont pris des risques pour réussir et ont franchi un cap dans leur business grâce à des rencontres.
Bonjour à tous, c'est François Allais et bienvenue sur Serial Entrepreneur. Pour ce 27e épisode, j'ai reçu à distance Sony Paris, cofondateur et CEO de NoCRM.io, un logiciel de prospection commerciale. Sony est un entrepreneur du web, un pionnier depuis 1998. Dans cet épisode, on parle notamment de son parcours avant d'entreprendre, de sa première expérience en 1998, Weborama, revendu 5 millions d'euros 10 ans après, sa deuxième expérience en 2008, Ulink, revendu à GameSpot, sa dernière expérience en date, NoCRM, créée en 2014. On va également parler de ce qui différencie NoCRM d'un CRM classique, ou également de l'impact du Covid sur son business. J'ai apprécié cet échange avec Sony, qui est un véritable pionnier du web, avec la création de plusieurs produits tech sur Internet depuis 1998. J'espère que l'épisode vous plaira. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à laisser une note sur Apple Podcast, t'abonner à la chaîne YouTube de Serial Entrepreneur. Tout ça, c'est très important pour moi pour avoir un maximum de feedback sur mon travail. Moi, je vous souhaite une excellente écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Sony Paris, qui est un entrepreneur du web. Aujourd'hui, c'est le cofondateur et le CEO de NoCRM, un logiciel de prospection pour les commerciaux, mais il a monté d'autres boîtes avant. Salut Sony.
Bonjour François, merci de m'accueillir.
Bah de rien, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. On va attaquer ce podcast comme je le fais à chaque épisode sur ton parcours. Et ma première question à chaque fois, c'est quel a été ton parcours avant d'entreprendre ?
Alors, mon parcours avant d'entreprendre, c'est un parcours d'étudiant. En fait, j'ai entrepris à la fin de mon parcours universitaire, à la fin de mon doctorat, j'ai fait un doctorat de physique. Donc, au départ, je me destinais plutôt à être chercheur en physique fondamentale. Et à l'issue de ma thèse, j'ai fait ma thèse au début d'Internet. Et on avait la chance à l'université d'être connecté en très très haut débit à Internet à une époque où, quand on avait déjà 64 kilobits, on était heureux. Et nous, on avait accès au réseau Redinter à 10 mégabits par seconde. C'était le tout début. Et bon, pendant ma thèse, j'ai créé mon premier site web, c'était en 1996, ce qui ne me rajeunit pas. Et voilà. Et à la fin de ma thèse, se posait la question de: est-ce que je faisais de la physique après, ou est-ce que j'essayais ce projet de partir sur ce nouveau média, cette nouvelle technologie qui était Internet. Et on s'est donné une année avec les cofondateurs, avec François et Rodolphe, qui étaient les deux autres cofondateurs de Weborama, pour tester un peu notre idée. Et puis finalement, on est parti sur Internet.
Ça s'est fait très, très naturellement finalement. Il n'y a pas eu trop de questions se sont posées.
Bon, si, il y a quand même des questions, parce que quand tu as fait 7 ans d'études, voire plutôt 8, sur un sujet et qui a priori un sujet qui te plaît, bon, ce n'est pas une décision légère, c'est une décision assez forte sur l'orientation de ta vie. Mm-hmm. Donc, mais c'est vrai que c'était quand même le tout début d'Internet en France, c'était assez passionnant, c'était nouveau, ça bougeait énormément, on sentait qu'il se passait quelque chose, donc ça donnait envie d'y être. Et d'ailleurs, il y a pas mal de physiciens qui était là au début d'Internet pour monter des boîtes. On pense notamment à Christophe Dupont, qui avait développé le moteur Echo pour Voilà et Respublica après. Enfin bon, il y a eu pas mal de gens qui venaient de cette discipline parce qu'effectivement, les physiciens avaient la chance d'être connectés à Internet à très haut débit. Mm-hmm. et travailler faire un peu de programmation et des choses comme ça. Ouais. Donc, il y a pas mal de gens qui sont plongés là-dedans, en sachant qu'on n'avait aucun background business, quoi.
Oui, c'est ça. C'est direct après l'école, après la thèse, j'ai envie de dire.
C'est ça.
Directement. Donc, c'est cette opportunité d'Internet, justement, c'est en 1998 que tu montes Weborama avec deux autres associés, c'est ça ?
Exactement.
Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Comment ça s'est créé, Weborama ? Qu'est-ce que c'était ? Et puis, voilà.
Alors, moi, je pars toujours, c'est d'une certaine manière, c'est un peu amusant, parce que je pars toujours avec un concept d'aider les gens à trouver des bons contenus sur Internet. Et ça finit toujours en boîte B2B qui fait du logiciel. Donc après, on pourrait écrire l'histoire à l'envers. Mais la réalité, c'est que le projet de départ, c'était quoi ? C'était de te permettre de découvrir les meilleurs sites francophones en 1998. Donc, la boîte a été créée en 98, mais le projet, il a commencé en 97. L'idée qu'on avait, donc, bon, je vais revenir un peu dans le temps, ça fait un peu ancêtre,
Allons-y.
mais à l'époque, si tu veux, le moteur de recherche, c'était Alta Vista. Alta Vista, si tu tapais chocolat dedans, ça allait te sortir la page qui avait la plus grosse densité du mot chocolat, sans aucune idée de qualité. Donc, il y avait deux moteurs de recherche à l'époque, Alta Vista d'un côté et Yahoo de l'autre, qui était un directory de sites. Et nous, notre analyse, c'était que ça n'allait pas parce que ça n'intégrait pas une dimension de qualité. Donc, on a voulu apporter une recherche qualitative. Donc, tu as Google qui s'est créé d'un côté, qui est devenu le moteur de recherche un peu de référence et qui a introduit le qualité via le backlink. Et puis, nous, on s'est dit, en fait, Yahoo, ça ne peut pas tenir. Ça peut pas y avoir des humains qui vont gérer des catégories comme ça. Ils ne sont pas pertinents, ces humains, ils n'y connaissent rien. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va faire un annuaire qui va être un double annuaire, qui va être un annuaire avec des classements par vote. Donc, les internautes vont pouvoir voter pour des sites et un classement par audience. Avec l'idée que Internet avait une espèce de dualité, des gros sites d'audience et puis des petits sites passionnants tenus par des passionnés. Donc, on voulait récompenser aussi le côté communautaire. Donc, voilà, on faisait un double classement des sites par visite et par vote, qui permettait de montrer deux aspects très différents d'Internet. Et évidemment, le côté par visite ou par vote nécessitait de placer des codes sur les sites des webmasters. Et donc, ça avait un effet viral assez fort, puisqu'on nous voyait sur des sites. L'Internet de l'époque était assez petit, hein, c'était des passionnés, mais il n'y avait pas tant de sites que ça. Et voilà, donc ça a créé un effet assez viral et Weborama est devenu assez vite un des sites, on va dire, connus des webmasters et des internautes à l'époque.
Et donc, Weborama, ça a été quoi un peu les grandes étapes? C'est une expérience qui a duré 10 ans, de 1998 à 2008,
Oui,
en
exactement.
tout cas pour toi,
Oui.
puisqu'on va en parler justement, les grandes étapes de Weborama, notamment,
Alors,
je ne sais pas, en termes de nombre de salariés, en termes de tout ça.
ouais. Bon, alors au début, c'était difficile, hein. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas d'argent personnel, on sortait des études. Donc, monter une boîte à l'époque, c'était en francs, il fallait un capital de 50 000 francs, même avoir les 50 000 francs, c'était un peu compliqué. Donc, on a quand même réussi à monter notre SARL. On n'a pas levé de fonds du tout, en tout cas pas au début. Donc, on a construit le site comme ça au début, même avant qu'on fasse une entreprise. Hein, mon directeur de thèse nous a dit, mettez-vous dans un coin là si vous voulez, voilà un bureau, et allez-y démarrer, et puis vous verrez si ça vous plaît ou si vous voulez faire de la physique, en gros. Et ça a bien démarré. Donc, c'était un service gratuit. Pour faire vivre ce service gratuit, on a essayé de monétiser par de la publicité, qui n'est pas arrivée tout de suite. Donc, on faisait au début des développements aussi de sites web, de petites choses alimentaires, des CD faits avec technologie web, déjà avec du JavaScript, des bases de données. On a fait plein de petites choses alimentaires autour de ce site qui grossissait. Puis finalement, on a réussi à signer avec 24/7 Média. À l'époque, c'était Pascal Gaillat qui s'occupait de 24/7 Média, un contrat de régie publicitaire. C'était un peu un moment où c'était la folie. Donc, les régies publicitaires se sont mis à signer des contrats avec des minimums garantis. Donc, on avait un niveau très élevé. On a Quel'Coup aussi, à une époque, qui offrait 10 francs par clic, enfin par personne envoyée sur les sites. Donc, on avait une technique. Alors, on ne trichait pas comme des fous. Il y a des gens qui trichaient comme des fous, qui redirigeaient automatiquement du trafic. Nous, on faisait, une fois que quelqu'un avait voté, on disait est-ce que vous voulez aller voir notre partenaire? Et puis les gens disaient OK. Et ça nous a permis de vivre comme ça jusqu'à ce qu'on arrive un peu à l'époque de vraiment la grande folie d'Internet, où là, on a pu commencer à lever des fonds. On a levé un petit peu d'argent. D'abord, on a levé 500 000 francs, donc lors de 100 000 euros auprès de particuliers. Et juste après, je crois qu'on a enchaîné avec une levée de l'ordre de 3 500 000 francs, peut-être 600 000 euros, peut-être Startup Avenue, qui sont devenus les gens d'ailleurs qui ont, enfin, Alain Lévy, Daniel Esfès, qui ont repris à l'issue l'entreprise Weborama. Et ça, c'était en 2000. Là, on est monté. Donc là, après ces levées de fonds, on est monté à 35 salariés. Et c'est à ce moment-là que la bulle Internet a explosé. Et qu'il a fallu essayer de survivre à ça. Alors, entre-temps, on avait commencé. Donc, au début, Weborama, c'était entièrement gratuit. Donc, guide, mesure d'audience et classement par vote. Et cet outil entièrement gratuit, on avait commencé à faire une version pro de l'outil de mesure d'audience. Parce qu'en fait, quand tu t'inscrivais chez nous, tu mettais un code, ça te faisait de la promotion, mais en même temps, on te fournissait un outil de statistique qui permettait de comprendre d'où venaient les gens, avec des technologies par marqueur de page, qui sont des technologies aujourd'hui évidentes, mais qui à l'époque n'étaient pas, voilà, n'étaient pas nécessairement la norme.
Quand vous avez monté Weborama, est-ce que vous êtes directement dit on va monétiser ce projet? Parce que enfin, faut quand même se dire
Ouais.
que justement à cette période, c'était peu courant, je pense, de créer ce qu'on appelle un business en ligne finalement. Comment ça s'est fait en
Alors,
fait?
on s'est inspiré de choses qui existaient. Il y
Ouais.
avait deux services qui existaient. Un qui était la Hitbox, qui était Website Story, qui était aux US, qui était un classement par trafic comme ça des sites. Ils avaient aussi, je crois, une version Q, classée, avec des sites classés X, parce qu'à l'époque, ça représentait une partie non
Déjà.
négligeable. Ces gens sont assez réactifs. Donc,
C'est
ils
ça.
sont très vite sur toutes les opportunités. Ils voient les opportunités de business probablement avant pas mal d'autres là-dessus. Et il y avait un autre petit site français qui s'appelle Top Web, qui était un petit site où tu pouvais voter pour des sites comme ça toutes les heures. Parce qu'une des spécificités de notre outil, c'est que tu pouvais voter. Donc, on s'était inspiré de ces deux choses-là. Et puis, moi, j'avais dit, mais ce qui est dommage, c'est qu'on devrait demander aux gens. On avait tout de suite pensé à la monétisation. On a dit, on va demander aux gens quel est leur âge, leur catégorie socio-professionnelle et leur sexe, dès le début, quand les gens faisaient un vote. On dit, comme ça, on aura une audience et on va pouvoir vendre de la publicité plus efficace parce que ciblée. Donc ça, c'est une idée
Carrément.
qu'on a eue dès le début. Ça, c'est 98, 97 ou 98. C'est vraiment au cœur de cette idée qui, après, va être la marque de Weborama parce qu'on va avoir un très gros échantillon de personnes pour lesquelles on connaîtra l'âge, le sexe et la catégorie socio-professionnelle, plus ou moins.
Ok, donc pour récupérer de la data,
C'est ça.
et du coup dans les différentes étapes, comment ça s'est déroulé justement sur le fait de bah, quand vous êtes rendu compte qu'il fallait recruter des gens dans votre équipe, que le chiffre d'affaires a commencé à grossir, comment ça s'est passé?
Alors, on a recruté au début, on était une petite équipe, on tenait sur nos moyens et en faisant des petits développements. Donc, on a eu une première période où on était 5-6. On a Fabrice Inzel, qui est notre directeur commercial, qui nous a rejoint très tôt aussi, à une époque. D'ailleurs, je pense qu'il était encore au chômage. Il a fait quelques mois en étant encore au chômage parce que on survivait avec des bouts de ficelle. Et il est arrivé, il a tout de suite commencé à vendre le produit. Et puis, on a deux développeurs, Henrik et Alexis, qui sont arrivés. Voilà, donc on était une petite équipe de l'ordre de 6 personnes, 6-7 personnes. Et ça, on arrive à tenir. Et après, on a commencé à accélérer avec la levée de fonds. Il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au départ, on avait le service gratuit, la publicité. Puis ensuite, la publicité s'est complètement effondrée. Donc, de ce service gratuit de publicité, de mesure d'audience qui vivait sur la publicité, on est passé à un service B2B, qui était un service B2B de mesure d'audience. Et après, tu t'aperçois quand tu grossis. Bon, alors là, il y a eu une phase assez difficile, hein, parce qu'avec l'éclatement de la bulle, malgré le côté B2B, bon, ben, les revenus diminuaient, le cash burn diminuait, on était dans une zone qui commençait à devenir tendue. Je crois qu'on est arrivé à un moment donné à avoir une dette à l'URSSAF de l'ordre du million de francs, 150 000 euros. On avait quelqu'un, Louis aussi, qui nous a rejoint très tôt. Qui s'occupait de bien gérer ces choses-là. D'ailleurs, dans les conseils, c'est important de parler assez régulièrement avec son administration, parce que si vous entretenez bon rapport avec votre administration le jour où vous avez un problème, bah, il vous aide à
Flexible.
survivre. Exactement, exactement. Et que c'est toujours important. Il ne faut pas mettre la tête, il ne faut pas faire l'autruche, il faut affronter, discuter, mettre en place des éléments comme ça. Donc, il y a une période assez difficile. Et la problématique, donc on était un peu dans le business de la mesure d'audience, et la mesure d'audience pour les entreprises, c'est souvent un coût. Voilà. Ce n'est pas à assimiler à quelque chose qui fait gagner de l'argent. Donc c'était un peu difficile de vivre là. Et donc on a lentement s'est déplacé vers la publicité. Et notamment, il y a un move qu'on a fait qui a fait la différence de manière totalement fondamentale sur Weborama. Et qu'on a pu faire uniquement parce qu'il y avait la crise. C'est-à-dire qu'avant, on offrait le service gratuit, et puis tous les services ont commencé à mourir autour de nous. Enfin, en 2000, ça a été quand même l'hécatombe. Et donc, on a dit, maintenant, ça ne va plus tout à fait être gratuit. En échange du service, de la visibilité qu'on vous apporte, en échange de l'outil de mesure d'audience qu'on vous apporte, on va afficher une publicité par visiteur, par jour, sur votre site, et on ne va pas vous donner d'argent pour ça. La contrepartie, c'est du produit. Alors, la publicité, c'était une publicité énorme. C'était des pop-under. Hein. À l'époque, il y avait des pop-under. Donc, on mettait un pop-under derrière le navigateur de la personne. Et on n'en mettait qu'un. Et alors, comme on n'en mettait qu'un et qu'on ne payait pas les webmasters, en fait, il n'y avait pas de triche. Parce que souvent, le problème sur les réseaux comme ça, c'est que les webmasters peuvent être rémunérés à la performance. Donc, nous, ce n'était pas le cas. Donc, on avait une très bonne qualité. Donc, le réseau Weborama était identifié comme un réseau sur lequel on pouvait annoncer, sur lequel on avait de la très bonne qualité. Donc, tu te retrouvais avec des gens qui faisaient des plans médias où il y avait un peu de Yahoo pour faire joli, pour montrer qu'on dépensait l'argent à des endroits bien, et puis quelques marques comme ça, et puis finalement, on venait récupérer l'efficacité sur des réseaux comme le nôtre, où on savait que là, on allait avoir du bon clic, quoi, parce qu'on n'avait pas de capi. Enfin, voilà, la personne, elle voyait qu'une seule fois la publicité, ça faisait une couverture maximum. Et ça, ce changement-là, ça nous a permis, en gros, de doubler du jour au lendemain notre chiffre d'affaires. Donc, on est passé d'une boîte qui était pas à l'agonie, mais enfin qui était dans le rouge, quoi, et qui n'avait plus de cash, à une boîte qui tout d'un coup devenait bénéficiaire et pouvait commencer à rembourser les URSSAF, quoi. Donc ça a été un vrai changement radical. Et l'autre point, c'est qu'en fait, ce dont on s'était aperçu, c'est que les technologies de mesure d'audience, c'est des technologies qui sont les mêmes que les technologies de la publicité. Enfin, je veux dire, la mesure d'audience, c'est quoi? C'est compter le passage de quelqu'un sur une page, c'est assez proche de diffuser une publicité pour quelqu'un qui passe sur une page. En tout cas, toute l'architecture technique est la même. Tous ces challenges-là, ils sont déjà adressés. On prenait déjà des milliards de requêtes à un moment donné par mois. Donc, on avait cette infrastructure. Donc, on a de plus en plus déplacé notre business vers un business de fournisseur de solutions technologiques pour la publicité. Qu'on soit profiling comportemental, diffusion de publicité, tracking, performance, ce genre de choses. Et
Très
c'est ce
bien.
qui a fait que Weborama est devenu Weborama et qu'on a introduit en bourse sur Alternext en 2006.
Ok, très bien. Et donc cette aventure, elle a duré 10 ans.
C'est
Et
ça.
en 2008, tu as revendu la société, du coup, avec tes deux associés.
C'est ça, exactement.
Comment as-tu vécu ce rachat de ce premier projet?
Alors, le rachat était assez folklorique. Le rachat était très folklorique parce qu'en fait, au départ, on a été racheté par des Allemands et nos actionnaires ont préempté. Et les Allemands ne voulaient pas que les actionnaires. Donc, ça a donné quelques scènes assez incroyables avec un moment l'évacuation des locaux parce que les Allemands étaient en train d'envoyer des recommandés à tous les actionnaires. Donc, il ne fallait pas qu'on reçoive le recommandé. Bon, enfin, voilà. Donc, il y a eu des petits épisodes assez amusants, mais bon, finalement, ça s'est bien passé. Alain Lévy, Daniel Sfèze, avec Startup Avenue, ont racheté la société. Ensuite, après, ils nous ont réintéressés par la suite à l'entreprise, voilà, pour qu'on continue à les accompagner un certain temps.
Ça a été une revente à combien? C'est à 5 millions d'euros, non?
C'est ça, ouais.
C'est ça.
Ouais, dans cet ordre-là, 5 millions d'euros plus après, donc voilà.
Et aujourd'hui, c'est une boîte qui existe encore.
C'est une boîte qui existe encore. Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais je pense qu'ils seront alors, plus de 250, peut-être même 400, parce qu'ils ont pas mal de bureaux, ils ont beaucoup de monde en Russie. L'activité russe marche bien, il y a une partie en Italie, en Hollande. Après, c'est sur un segment, malheureusement, avec la crise du Covid, là, qui est difficile.
Ouais,
Enfin, de la publicité, voilà. Hein, tous ceux qui
c'est
sont dans
sûr.
la publicité, c'est pas le moment le plus. Mais oui, c'est une entreprise qui a bien grandi.
Et
On
personnellement,
est parti, je pense qu'on était 35 ou 50, quoi.
comment tu l'as vécu dans le sens bah, vendre ce premier projet
Alors moi, je l'ai vécu très bien. Hein. Je l'ai vécu très très bien.
C'était une volonté, c'était.
C'était tout à fait une volonté. Comme dit Mark Zuckerberg, la vie avec son premier million de dollars est beaucoup plus facile que sans. Et effectivement, ça change. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a démarré la boîte. Moi, ce que je dis, on n'a pas d'argent côté familial. Et quand tu as 100%, ça c'est aussi un problème peut-être des VC en France par rapport aux VC aux États-Unis, des choses comme ça. En France, on ne s'arrange pas tellement pour que les fondateurs sortent de l'argent en cours de route. On a peur que s'ils sortent de l'argent en cours de route, ils arrêtent de bosser ou un truc comme ça. Alors qu'aux États-Unis, différentes étapes, les fondateurs sortent de l'argent. Donc quand tu as démarré une boîte et que 8 ans après, finalement, tu n'as pas réalisé grand-chose de cette entreprise, et que tu sais que tu es sur Internet et que tu as toujours le risque que Google fasse un service gratuit et que ta boîte du jour au lendemain elle ne vaut plus rien, au bout d'un moment c'est assez stressant et tu as envie de réaliser et de vendre,
si c'est clair,
pour avoir un certain confort. Si tu as la situation sur une deuxième entreprise, elle n'est pas du tout la même que sur une première entreprise. Parce que voilà, justement, tu as déjà récupéré un peu d'argent.
De récupérer le fruit de ce travail aussi. C'est,
exactement, tout à fait. Tout à fait.
Cette aventure-là, comme beaucoup d'aventures, c'est aussi le fait de ne pas se payer les premières années. C'est aussi.
Tout à fait. Voilà, c'est beaucoup de sacrifices. Et tu dis que si à la fin de ces sacrifices, tu n'as rien, c'est un peu dur.
C'est un peu dur. Ça peut arriver, mais.
Et ça arrive souvent. Non, mais ça arrive souvent. C'est-à-dire que nous, avec la crise de 2000, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui sont repartis en short, mais en short, et notamment avec des choses qui sont un peu compliquées. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, s'ils ont aménagé la politique fiscale, mais à une époque, donc si tu vendais ta boîte, notamment par exemple à une boîte américaine et que tu la vendais en action, okay, tu étais imposé sur la plus-value, sur la valeur du deal en action. Si tu avais un lock-up et que ton lock-up durait 6 mois et pendant ces 6 mois, tu es tombé au moment de l'éclatement de la bulle, la valeur de tes actions avant que tu peux, ne couvre pas les impôts que tu dois payer. Donc, tu as des gens qui sont retrouvés avec moins d'argent en ayant vendu leur boîte que tu vois, tu as l'impression d'avoir fait une belle exit et en fait, à l'arrivée, tu es en négatif. Tu es en négatif parce que tu dois de l'argent aux impôts. Donc, bon, il y a eu des gens qui sont retrouvés dans cette situation. Il y a des gens qui avaient levé beaucoup d'argent qui sont retrouvés sans rien du tout. Et qui sont aperçus aussi au passage qu'ils n'avaient pas cotisé au chômage et donc ils n'avaient même pas. Donc oui, on était content d'avoir réalisé ça. C'était une belle.
Une belle fin, on va dire.
Une belle fin, exactement. Exactement. C'était 10 ans, c'est une belle durée pour un projet. Il n'y a pas du tout de nostalgie par rapport à ça. C'est une très belle aventure. C'est-à-dire qu'on est. Et c'était une époque où vraiment il y avait vrai. Voilà, on a fait beaucoup. Tout était à créer, quoi. C'était l'aventure. Ouais.
Non, mais c'est clair, c'est les débuts du web. Et, oui. Et donc, suite à ce premier projet, cette première aventure, tu montes en 2008, du coup, donc assez rapidement après Youlink. Youlink, est-ce que tu peux nous dire ce que c'était? Et comment ça s'est
comme d'habitude, hein, c'était le but du jeu, c'était de trouver les meilleurs sites sur,
voilà,
sur
Internet. Un autre business du web.
C'est ça. Donc, je revenais à mon obsession de départ. Donc, Youlink, ça avait démarré comment ? Ça a démarré par la visite de Patrick Chassani, qui est un serial entrepreneur qui a fait beaucoup de choses avec plein de belles réussites. Il est passé nous voir pour nous parler du web 2.0. Je ne sais plus tellement pourquoi d'ailleurs. Il était excité, il était comme un fou. Je me dis quand même, si lui, il est comme un fou, il doit y avoir quelque chose. Et j'ai regardé et j'ai découvert à ce moment-là tout ce qui était Dig, Delicious, les passages, voilà, le début de ce qu'on appelait le web 2.0. Puis là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et on s'est dit, on va faire quelque chose comme ça, non plus pour découvrir des sites, mais des documents sur l'idée du réseau social. Donc, les gens, c'était une bookmarklet que tu mettais sur ton navigateur qui permettait de sélectionner des sites et de partager ensuite ces sites avec ton réseau. Ce qui a évidemment été pris après par Facebook. Mais nous, il y avait vraiment une idée de espèce de construction du savoir. Donc, il fallait, par exemple, le tag était obligatoire. Tu étais obligé de catégoriser le contenu que tu partageais. À l'époque, il n'y avait pas de commentaires. Je pense que c'était finalement une très bonne idée d'interdire les commentaires parce qu'on a vu ce que les commentaires ont donné sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et je pense qu'on devrait interdire les commentaires tout le temps sur Internet. On s'en porterait beaucoup mieux. Mais c'était ça. Donc, l'idée, c'était partage du savoir, partage des choses qu'on trouve intéressantes sur Internet et système de recommandation qui devait être comme ça résistant au spam puisque tu ne voyais que des contenus sélectionnés par tes amis donc, ou les personnes que tu suivais parce que l'idée, c'était évidemment sur certains thèmes de pouvoir suivre des gens. On a fait aussi une version pro de ça. Alors, au début, ça marchait bien, mais Google a changé son algorithme. Et en fait, il a sorti du jeu plein de boîtes. Ça, il ne faut pas oublier que quand tu as un business et que ta source de trafic, c'est Google, bah, du jour au lendemain, Google peut décider que finalement, tu n'as plus le droit d'apparaître. Et en
C'est
fait,
clair.
il a considéré tous les gens comme Dick, Delicious, nous, comme des intermédiaires qu'il fallait court-circuiter. Donc, on a disparu des résultats. Il a changé son algorithme. Et Dick, notamment Dick, qui à une époque, je crois, valait potentiellement 120 ou 200 millions de dollars, a été revendu à la fin 500 000 dollars. Enfin, c'était une grande. Voilà, une espèce de gâchis comme ça. Mais bon, il ne faut jamais oublier voilà, que Google a quand même à un moment donné toujours un bouton qui permet de détruire une partie de la concurrence qui ne lui plairait pas nécessairement.
C'est sûr.
Donc, on a fait une version pro, où là, l'idée, c'était d'avoir un réseau social interne pour partager du savoir au sein de ton entreprise. Au départ, on l'imaginait comme un outil pour les PME, pour les TPE-PME, vraiment un outil de travail. Tu pouvais tweeter, tu pouvais partager des favoris, des choses comme ça. Ça n'a pas très bien marché en termes d'outils pour les PME. Ça n'a pas du tout fonctionné parce que c'était trop en avance, c'était trop conceptuel. Les gens ne comprenaient pas précisément à quoi ça servait. Donc, ce n'était pas assez clair, quoi.
Ok.
Donc, on l'a orienté vers les grandes entreprises pour faire plus des réseaux sociaux. Donc, on a eu des belles références. On a eu CTLM, on a eu Havas aussi, Lagardère, évidemment, des entreprises industrielles. Bon, on a eu pas mal de références. Ça a marché un peu, mais ce n'était pas fantastique. Donc, on a revendu l'activité à Jamespot et on s'est consacré sur un nouveau produit qui était nos CRM, dont l'idée est venue finalement en ayant du mal à vendre Ulink Pro. Voilà, on avait un petit logiciel, on avait un petit CRM qu'on utilisait à l'époque, et je passais mon temps à remplir des fiches et je ne closais pas tellement de deals, et je trouvais ça très pénible de remplir des fiches et de remplir des fiches et de remplir des fiches pour rien. Et donc on s'est dit, il y a probablement quelque chose de plus sympa à faire, et c'est là qu'on a démarré l'aventure sur nos CRM.
Ok, donc nos CRM a été créé, on va dire, sur la fin de Ulink, c'est ça?
C'est ça, c'était vraiment un outil de transition. En fait, même l'idée, c'est que ce qu'on s'est dit, c'est tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire une communauté dans notre réseau interne, une communauté de vente, et voir comme ça, justement, si ce n'est pas plus facile de suivre nos opportunités commerciales. Et ça marchait assez bien, il manquait des petites choses. On s'est dit, bon, bah, alors il y a une idée. On a fait une page, on a mis une page sur le web avec juste notre pitch sur le CRM, ce qu'on pensait qui n'était pas bien. On a demandé aux gens si ça les intéressait. On leur a dit, rentrez votre email si ça vous intéresse. Et on a fait de la publicité pour cette page. Donc, on a acheté des AdWords. On avait déjà le nom You Don't Need a CRM. Donc, on a acheté des AdWords là-dessus. Et des gens sont venus et des gens se sont inscrits. Et on avait un taux de conversion de la page qui était assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'une personne sur six qui visitait la page mettait son adresse email.
Ok.
Donc,
Ça
on s'est dit, il y a un intérêt.
vous est
Oui,
venu
vas-y.
comment le nom You Don't Need ECRM?
Bah, parce que je pense que toute personne qui a utilisé un CRM, à un moment, on ne peut plus, quoi.
Les
Donc,
grosses machines de guerre.
mais c'est ça, parce que les CRM, ils sont pas pensés pour le commercial. Les CRM, ils sont pensés comme quelque chose qui serait d'administratif. C'est-à-dire que le CRM, c'est finalement comment ranger ta data. Et vendre, c'est pas mettre de la data précisément. Enfin, je veux dire que tu es le numéro de sirène de l'entreprise, ça peut n'avoir absolument aucun intérêt. Des fois, ça peut être une clé intéressante, mais a priori, ce n'est pas nécessairement ce dont tu as besoin. Donc, tu passes ton temps à créer une entreprise, à ajouter un contact, à ajouter ensuite un deal, à dire que ce deal, il va falloir que tu le rappelles. Bon, tu veux juste rappeler la personne et savoir ce que tu t'es dit la fois d'avant. C'est ça, vendre. Vendre, c'est un processus. C'est où est-ce que je suis maintenant? Où est-ce que je suis dans une semaine? Voilà, et quelle est la prochaine étape? Donc, il faut fournir un outil au commercial pour lui dire, voilà, au plus simple, quel est l'outil le plus simple qui va permettre au commercial de savoir quand est-ce qu'il doit rappeler et qui doit rappeler pour dire quoi?
Donc nos CRM a été, donc on est en 2014 là, c'est créé en 2014.
Ouais, on l'a développé en 2013 et le lancement, c'est 2014, exactement. En 2014, on commence le lancement payant de nos CRM.
Et donc
Et ça marche assez bien.
j'allais te poser comme question, qu'est-ce qui différencie nos CRM des autres CRM? Et tu viens un peu de l'expliquer, c'est-à-dire que dans la manière de justement de faire, tout est simplifié, tout est, comment dire, comment est-ce que
Oui.
tu nous expliquerais ça?
L'idée, c'est de ne pas ralentir le commercial. Voilà. On veut que l'outil qu'il utilise, il n'ait pas l'impression que ce soit un outil qui est contre lui, mais un outil qui est avec lui. Donc, on regarde comment est-ce que le commercial travaille, quels sont les outils qu'il utilise, et on essaye de lui rendre la vie le plus simple possible. Et ce que déteste un commercial, c'est perdre du temps pour rentrer de la data. Donc, l'outil, notamment, pour moi, les points qui sont les plus intéressants dans nos CRM, c'est que d'abord, ce que tu crées, c'est une opportunité. Le cœur, c'est ce qu'on appelle l'opportunité. C'est-à-dire la potentialité de vendre quelque chose à quelqu'un. Et cette opportunité, si tu veux ne mettre qu'un titre avec un numéro de téléphone, écrire François et ton numéro de téléphone, le système, il accepte. Il est d'accord. Il n'embête pas le commercial. Il dit, t'as que ça comme info aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Et à partir du moment où tu as créé cette opportunité, elle est tout de suite dans le mode affaire. Donc, tu dois avoir une prochaine action. Donc, quand tu vas te reconnecter et voir tes actions, tu vas voir que tu as François avec un numéro de téléphone que tu vas devoir rappeler. Donc, ça prend 2 secondes. De la même manière, tu prends une carte de visite. Aujourd'hui, tu fais une photo de la carte de visite. Ça crée une opportunité. L'idée, c'est de ne pas ralentir le commercial. Comment? Le commercial, ce qu'il veut, c'est faire avancer les deals. Et si après, il veut travailler proprement, s'il a des fichiers qui lui permettent de travailler proprement, de bien structurer son information, il n'y a aucun souci. Mais typiquement, une des grandes différences, et ça, c'est à la fois historique et c'est à la fois important. Dans notre réseau social, on avait ce qu'on appelait un whiteboard, une espèce de wiki, quoi, une page. Et en fait, un lead dans nos CRM, c'est toujours un peu ça. C'est-à-dire que c'est en fait juste du texte. Donc, tu as le nom des champs, tu peux les renseigner, mais si tu veux tout effacer et mettre copier quelque chose d'autre qui n'a rien à voir, on te laisse le faire, ce n'est pas un problème.
OK.
D'accord? Donc, on perd évidemment en structure de data un petit peu, hein. Bah, ça peut être gagnant tous les coups, mais on gagne en simplicité d'usage, en vitesse d'exécution, ce qui fait que les commerciaux sont contents, ils l'utilisent. Comme ils l'utilisent, ils mettent tous leurs deals dedans parce que ça les aide. Ils ne rentrent pas le deal juste avant la réunion commerciale, voilà, où ils récupèrent leurs 3 post-it ou leurs 2 fichiers Excel et ils les mettent dans tous les deals. Donc le manager, il voit tous les deals, renseigné plus ou moins, mais au moins il voit tout ce qui se passe. Et voilà. Et tout le monde est plus content et tout le monde est plus efficace.
Ok. Et les entreprises que vous ciblez, donc c'est les entreprises de 1 à 500 salariés, c'est ça?
Ouais, ça c'est ce qu'on met sur le site. La réalité, nous, notre sweet spot, on va dire, c'est les entreprises de 3 à 30 commerciaux.
Ok.
Ça c'est ce qui nous plaît le plus. On a beaucoup de clients qui sont tout seuls aussi, mais évidemment, on gagne peu d'argent sur ces petits clients. Donc, on essaye quand même d'aller chercher des clients qui sont sur des tailles plus importantes. On a des clients jusqu'à 400 postes. Là, aux US, on a un client qui a 80 postes qui devrait passer à 200. Au Mexique aussi, on a des clients avec une centaine de postes. Donc, on peut monter sur des choses comme ça. Mais voilà, jusqu'à 30, on est vraiment bien. Euh,
J'ai
c'est,
vu
c'est, c'est assez facile.
que vous aviez aussi une offre pour les micro-entrepreneurs. C'est quelque chose d'assez intéressant puisque enfin, la majorité des CRM, c'est quand même des tarifs assez élevés et puis pour tout ce qui est grande échelle. Vous avez justement cette offre
Bah nous, on a une offre qui démarre, on a une offre starter qui est à 12 euros par mois. Donc,
Ouais.
voilà, si on a une seule personne pour 12 euros, on a un outil qui est déjà très bien. Après, on peut même passer à 19 si on est même un commercial ou on vient sur une offre plus expert avec plus de fonctionnalités, qu'aujourd'hui l'offre qui a le plus, bon, qui est nettement mieux. Mais oui, avec 12 euros, on peut démarrer et voilà, et commencer à rappeler ses prospects. Et y compris quand on est un commercial, les auto-entrepreneurs, ils passent qu'une partie de leur temps, par exemple, à faire du commercial. Et en fait, c'est très utile parce que quand on revient, bah voilà, on récupère tout l'historique, on sait tout de suite qui on a appelé et quel est l'historique des choses à faire. Donc, même pour des gens qui font du commercial de façon très alternative, ça fonctionne très bien. Ouais.
Et donc en 6 ans, nos CRM, c'est en termes de date clé, est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes?
Alors, les dates clés, c'est difficile parce que c'est
Période clé?
le SaaS, c'est un peu du diesel au sens où c'est quelque chose qui croît lentement tous les ans de manière assez systématique. Donc, j'ai pas de date clé. On grossit systématiquement tous les ans. La problématique, si tu veux, ça a été plus le passage de Yooling Pro à nos CRM qui a fait que pendant les 2, 3 premières années, on avait un chiffre d'affaires qui était désespérément stable puisque tout ce qu'on perdait sur notre produit d'avant commençait à monter sur nos CRM. Donc, de l'extérieur, tu avais l'impression d'une boîte qui n'avançait absolument pas, alors qu'à l'intérieur, il y avait une vraie mutation de l'entreprise. Au bout de 2 ans, je pense que c'est 2 ans, peut-être même un peu avant, on s'est 100% consacré, on a vendu l'activité à JumpSpot et on s'est 100% consacré à nos CRM. Donc, on va dire que le moment où nos CRM a payé tous les salaires, c'est un moment, voilà, ça c'est
Voilà.
déjà un moment important. Voilà, ça c'est évidemment plus qu'agréable. Et puis après, on a continué l'expansion et maintenant on est 16 personnes, on a ouvert d'autres bureaux, c'est
Justement,
quelque chose qui.
en termes de stats aujourd'hui, nos CRM, c'est combien de clients, combien de salariés, du coup, il y en a 16,
Ouais.
combien de chiffres d'affaires, par exemple?
Chiffre d'affaires, on est sur les 2 millions d'euros. En gros, on a fini l'an dernier à 160 000 euros de MRR.
Ok, très bien.
Avec une croissance. L'an dernier, on a fait plus de 50% de croissance sur le chiffre d'affaires. C'était une très belle année 2019.
Ça, c'est une bonne date clé, ça.
Alors évidemment, 2020 va être.
Oui, on va en parler juste après, du
Non, non,
coup.
ouais, 2019, c'est un beau. Ouais, c'est une vraie belle année. C'est l'année où on a vraiment l'impression de devenir effectivement une entreprise significative.
Très bien.
Significative, profitable.
Justement, c'est quoi les prochaines échéances, étapes pour nos CRM?
Bon, là, malheureusement, on est en pleine crise du Covid, donc là, il faut qu'on traverse ça. Je ne pense pas que 2020 va être une année extraordinaire de croissance. Voilà. Donc, on a évidemment perdu, on a eu une baisse de chiffre d'affaires hein, depuis le début de la crise. Ça augmente, c'est des genres de choses qui augmentent le churn, qui diminuent l'acquisition. Après, on a de la chance. Hein, j'ai des amis qui sont opticiens. Je pense que les gens qui ont des bars ou des restaurants, ils sont infiniment plus à plaindre que nous. Nous, on est sur de l'immatériel, donc.
Justement, on va passer à cette partie de l'épisode sur le post-Covid et comment s'est passé le confinement d'un point de vue professionnel, aussi personnel, mais surtout quel est l'impact que ce Covid a eu sur nos CRM.
Alors la première chose, c'est que nous, on est une boîte totalement remote. D'accord? Et on a des gens, je crois qu'on est dans 8, peut-être 9 pays maintenant, parce qu'on a quelqu'un en Mexique. Donc on est habitué au télétravail. Donc on est équipé pour le travail, on sait fonctionner sur le télétravail. Donc a priori, bon, ça rendait les choses plus faciles, même si on a l'habitude de se voir quand même au moins sur les Français, physiquement, régulièrement à Paris. On a l'habitude. Néanmoins, l'ambiance était pesante. Donc c'était pas, même pour une boîte habituée au télétravail, pas facile, la productivité était en berne, ma propre productivité était en berne, tu regardes les réseaux sociaux, tu regardes les nouvelles, bon, voilà, l'acquisition, elle est beaucoup plus faible, les gens, ils ont autre chose à faire à ce moment-là que d'acheter un outil pour faire de la prospection commerciale, même si ceux qui n'étaient pas du tout équipés, ils ont besoin de quelque chose qui fonctionne en SaaS, donc qui fonctionne à domicile, donc ça a été un peu difficile. Maintenant, on sent que c'est reparti, même si l'Amérique du Sud, c'est toujours très difficile, et que nous,
Et
on est
l'Amérique tout
dépendant.
court, d'ailleurs.
L'Amérique tout court, mais ça se voit moins dans les chiffres sur les USA. Alors peut-être que ça va malheureusement repartir parce que là, ils sont à nouveau dans une période difficile. Mais en Amérique du Sud, je trouve qu'en ce moment, l'acquisition, la perte d'acquisition est marquée,
Mais
notamment parce que les monnaies aussi ont été
c'est ça.
dévaluées, les nouveaux factures en dollars. Donc pour eux, ça devient plus cher. Donc ça devient plus cher dans un pays où la crise économique augmente. Bon, c'est un peu difficile pour les Sud-Américains.
Mais c'est sûr que la prospection commerciale a été ralentie, et puis que, enfin, sur des produits, par exemple, B2B, il y a beaucoup de choses qui sont reportées à septembre, en espérant qu'il n'y ait pas de deuxième vague.
Sure.
Mais c'est vrai que la prospection commerciale a été totalement ralentie. Donc, forcément, ça vous a impacté, d'un point de vue, business.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc là-dessus, il y a eu un impact. Ce qui ne nous empêche pas de recruter. Là, on a recruté quelqu'un en Mexique. On va probablement envoyer quelqu'un au Canada l'an prochain en espérant que les visas refonctionnent. Mais bon, je pense que d'ici septembre, ça devrait fonctionner. Donc on continue, voilà, on est une entreprise bénéficiaire, on reste bénéficiaire, on a cette chance et on peut continuer sur nos fonds propres à croître. Et ça,
OK.
c'est important. Hein. Et on essaye de, là maintenant, on a un beau produit, d'augmenter maintenant, de créer un réseau de partenaires. Voilà, on travaille à la montée encore,
Très
essayer
bien.
de trouver des relais de croissance. Hein.
Et donc l'équipe est entièrement remote dans combien de pays?
Bah, je crois qu'on est 8 ou 9. Alors, on peut même compter. On a eu USA, Mexique, Argentine sur le continent américain. Moi, je suis un peu sur l'Angleterre, Angleterre et France. On a quelqu'un en Portugal, en Allemagne, en Italie, et évidemment la France. Ouais. Donc, ça fait 8.
Ok. Et pour revenir au Covid, qu'est-ce que tu retiens de cette crise qui est toujours en cours d'ailleurs?
Pour l'instant, je suis surtout étonné que. En fait, je ne suis pas tout à fait sûr que la crise ait encore eu lieu. Je ne suis pas sûr que le pire soit derrière nous. J'ai plutôt tendance à penser que les vrais problèmes
Les
vont
vraies conséquences vont
démarrer.
arriver après quoi.
Ouais, c'est ça, plutôt à partir de septembre. C'est pour l'instant, on a inondé le marché de cash. Les dépôts de bilan n'ont pas encore eu lieu.
Puis
Est-ce que.
des boîtes aussi qui ont dû recourir à des prêts. Enfin, on pense à des
C'est
gros
ça, tout à fait.
comme Airbnb, par exemple,
Ouais,
qui ont dû faire un prêt de je ne sais plus combien de milliards pour
un taux
survivre.
pas très sympathique, ouais, un taux pas
C'est ça.
sympathique en plus.
Donc, c'est sûr que ça va être compliqué.
Va être compliqué, mais il y a plein de boîtes, voilà, notamment aux États-Unis, qui sont inondées de cash à bas prix. En France aussi. Bon, de toute façon, il n'y avait pas le choix, hein. Il fallait maintenir les liquidités, donner des liquidités à des boîtes. Alors, je pense que ça s'est mieux fait en Europe qu'aux USA. Mais malheureusement. Il y a des secteurs qui ne vont pas revenir au niveau d'avant. Le tourisme, c'est très compliqué, ça risque de durer. Tout ce qui est transport, tout ce qui est événementiel. Bon, voilà. Donc, il va y avoir de la casse, et cette casse va entraîner de la casse, et ainsi de suite. Donc, j'ai malheureusement peur que les difficultés soient encore devant nous. Donc, je retiendrai un peu mon. avant de donner mes conclusions sur cette crise-là, non, je pense que. La crise réelle est à venir. Bon, j'espère me tromper, hein. Peut-être que je me trompe et que ce ne sera pas le cas.
Très bien. On passe à l'avant-dernière partie du podcast. Ce sont les rencontres, un sujet un peu plus sympa. Est-ce que tu peux me citer deux ou trois rencontres qui t'ont aidé à franchir un cap dans ton business, dans tes business du coup?
Alors, en fait, il y a plein de rencontres qui sont importantes.
C'est ce qu'on me dit à chaque fois.
Oui, non, mais parce que en fait, je pense que la réussite, on parle de la chance. Moi, je crois entre guillemets à la chance sans y croire. C'est-à-dire que je pense que dans un parcours, tu vas avoir plein de moments où des opportunités vont se créer et il va falloir dire ouais, j'y vais,
Je suis d'accord.
j'essaye. Et c'est ça, la chance, c'est d'essayer des trucs qui passent et voilà. Et des fois, ça marche et ça fait des. Moi, je me souviens au tout début de Weborama, comme ça, on a eu des histoires assez rigolotes. Alors, on cherchait à lever des fonds et mes parents connaissaient quelqu'un qui avait un fonds d'investissement. Il nous a dit, bon, sur votre truc, il y a un business angel, c'est Achille Delahaye, je peux vous le présenter. Et on rencontre ce mec-là, assez passionnant, mais qui connaissait, bon, voilà, un baroudeur. Et le mec nous fait signer une option d'achat, honnêtement, mais c'était hyper en sa faveur. Mais il voulait avoir une option pour investir, voilà, un taux. Il ne mettait pas beaucoup d'argent, un taux vraiment bien pour lui. Mais il voulait se donner genre une semaine ou 2 semaines pour prendre une décision. Et pendant cette semaine ou 2 semaines, il a activé son réseau. Et je ne sais pas, justement, c'est notamment Pascal Gaillat, il nous a obtenu ce contrat à la régie 24/7 Média avec un minimum garanti. Et puis finalement, il n'a pas levé son option. Et si tu veux, là, on a eu un truc. Et ce contrat avec 24/7 Média était important, quoi. Pour nous, ça nous a quand même vraiment fait vivre. Et voilà, ça, c'est une rencontre qui s'est faite. Ça a été fulgurant. On a signé, je pense, un papier qu'on n'aurait pas dû signer. Mais finalement, en signant ce papier qu'on n'aurait pas dû signer, on a obtenu un super contrat par ailleurs. Puis bon, lui, il a pensé qu'on était peut-être un peu trop fou, un peu trop loin du business. Il a pas exercé son option. Et voilà, on a une autre amie, Karine Barbelivien, qui avait la Seita, elle avait une agence qui était Pictoris à l'époque. Elle était cofondatrice d'une agence Pictoris. Et elle nous dit, voilà, j'ai la Seita, votre outil là, pour faire la mesure de danse gratuit, c'est vachement bien. Faites-en une version pro, je vais vous le vendre comme des petits pains. On a fait la version pro, c'est la seule version qu'elle nous a jamais vendue. Elle n'a pas vendu une seule autre. Mais ce n'est pas grave, ça nous a lancé. Et on a ouvert un vrai business et c'est ce business qui nous a permis de survivre après. Voilà, il y a des gens, Fabrice Inzel qui nous a rejoint comme ça, c'est parce que au départ, finalement, on avait fait rentrer au tout début un ami avocat au capital parce qu'on était un peu court d'argent, qui nous a fait rencontrer son cousin qui connaissait Fabrice Inzel, qui est venu et qui nous a fait confiance et qui a fait qu'on a pu vendre des choses. C'est plein de petits hasards des entreprises. Pareil d'ailleurs, c'est Fabrice Inzel qui nous a fait rencontrer les gens de Startup Avenue, Alain et Daniel, qui ont eu confiance en nous. Les rencontres, c'est important. Surtout à une époque comme ça où c'était quand même un peu n'importe quoi. comment ça vient.
Ouais, c'est sûr.
C'est un peu l'aventure, c'était un peu, voilà, c'était, tout était à inventer. Donc, ouais, pas mal de petites rencontres. Il n'y a pas une rencontre décisive, mais il y a des tonnes de rencontres comme ça qui ont eu leur impact, qui ont
C'est
changé
ça.
des, ouais, qui créent des petits moments où ça bascule d'un côté ou de l'autre. Et il faut être ouvert, faut être ouvert à ce que quelque chose puisse se déclencher.
Non, mais c'est clair. Ce que je retiens, c'est de tous les échanges que j'ai eus, c'est que chaque aventure entrepreneuriale, c'est une succession de rencontres, d'opportunités. Je pense que le facteur chance, il est très, très petit parce que enfin, les opportunités, il faut les saisir, les rencontres, il faut
Tout
les
à
provoquer. Et je pense que la chance, c'est avec modération, quoi.
Oui, mais après, il en faut, tu vois, surtout aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que notre outil de réseau social n'a pas tellement marché là où Slack a été un succès mondial? Bon, le mec de Slack, alors il s'avère que c'était le mec qui avait fait avant Flickr. Il avait lancé une boîte de jeux vidéo, puis son jeu vidéo n'a pas marché, puis il a fait un petit outil de communication interne. Et puis bon, comme c'était aux États-Unis, il lui restait 5 millions de dollars sur le compte pour faire son pivot. On aimerait tous avoir 5 millions de dollars pour faire un pivot. Lui, il les avait, il avait l'historique. Donc, tu avais la bonne personne au bon moment. Pareil, sur Weborama, on avait vu des gens à un moment donné qui avaient des outils de mesure d'audience vachement pointus, et d'ailleurs, qui étaient vachement bien, mais ils sont arrivés trop tôt. Donc, le timing, à quel moment tu arrives, il ne faut pas arriver trop tôt, il ne faut pas arriver trop tard, il faut être au bon endroit, au bon moment. Il y a quand même de la chance, il y a des produits, tu les vois, c'est au millimètre, quoi. Et comme on est sur certains, pas sur tous les business, hein, nous on n'est pas sur CRM, mais pas du tout un business winner takes all, mais sur les business winner takes all, bon, bah, il faut aussi un peu de chance, quoi.
Non, c'est
Bon, il
sûr.
faut une vision, il faut cela. Puis bon, des fois, il y a des trucs qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Et tu peux réécrire l'histoire après sur pourquoi ça a marché, mais la réalité, c'est que la personne, elle contrôlait absolument pas. Et
C'est ça.
voilà, il y a 200 personnes qui ont démarré, puis il y en a une, ça s'est un peu mieux passé. Et ça ne veut pas dire que les 199 autres étaient des truffes et que
Non,
lui,
mais
il
c'est
était
clair.
particulièrement super fort.
Ça dépend de beaucoup trop de facteurs, la réussite ou non d'une boîte.
C'est ça, c'est ça. Et même, je vais dire, quand on a monté YouLink, tu vois, réseau social, on avait vraiment une super équipe. Il y a toujours mon associé qui est là, mais à la technique. On avait Alexis qui est très fort. J'ai eu Sébastien Blanc qui est devenu CEO d'une autre boîte, qui vient de revendre pour des millions de dollars, voire des dizaines de millions de dollars. On avait honnêtement une équipe très très forte. Bon, le projet, il a échoué. Il a échoué parce que ce n'était pas le moment. Voilà, on n'était pas au bon endroit, au bon moment. On était en avance de phase, peut-être pas avec le bon produit. Et donc, tu peux avoir la meilleure équipe du monde. Tu peux te planter, quoi.
C'est
Et même
sûr.
sur un projet qui n'est pas complètement débile, tu vois, c'était pas complètement débile, YouLink. C'était juste, voilà, je pense que le time to market reste pas toujours. Enfin, s'il faut garder d'ailleurs, si on doit donner des petits conseils aux entrepreneurs, le time to market, c'est
Très
le
important.
market. Non,
C'est
un, le
ça.
market. D'abord, au début, je comprends pas pourquoi on te bassine avec le market. Mais ouais, c'est quoi ta taille de marché et est-ce que tu es dans le bon timing sur cette taille de marché? Bien sûr.
Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui hésiteraient à se lancer? Tu viens de les donner, en fait, un peu.
Non, mais c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du vide. Faut avoir un peu. En fait, il faut être un peu optimiste, un petit peu mégalomane. Se dire que si on a Yahoo dans la compétition, ce n'est pas grave. On arrivera à les battre ou à faire un truc à côté. Donc, il faut. Et d'ailleurs, à la fin, Yahoo est tombé, quoi. Yahoo ne valait plus que par ses actions Alibaba. Donc, voilà. Il ne faut pas être entrepreneur et souvent. En tout cas, à l'époque où c'était un choix déraisonnable. Mais c'est quelque chose de c'est une aventure assez passionnante aussi par ailleurs.
Et on va passer du coup à la dernière phase du podcast.
Des petites questions surprises.
Exactement. La première question surprise, c'est y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée?
Alors, je vais réfléchir pendant que tu vas me poser ta deuxième question au cas où, si jamais je trouve.
Et après, c'est très bien, ça veut dire que j'ai pas trop mal.
Tu as fait merveilleusement ton boulot. Non, mais je trouve ça intéressant. Je pense que ça donne un peu
Vision
une idée
globale, quoi.
de. Ouais, non, peut-être un truc, mais c'est de l'ordre des conseils. sur les sorties, prenez du cash, ne prenez pas d'actions ou de choses comme ça. Un chèque tout de suite vaut mieux toujours que deux, tu l'auras peut-être plus tard, plus. Bon.
Ok.
Mais
Un bon
c'est.
conseil.
Ouais.
Et donc, dernière question, c'est enfin, est-ce que tu peux me citer deux, trois entrepreneurs que tu me conseilles pour des prochains épisodes?
Pour des prochains podcasts, ouais, je peux t'en citer deux que j'aime. Bon, il y a Sébastien Blanc, justement, dont je te parlais. Donc lui, tu peux.
Qui a monté
Alors, il a été. En fait, il bossait avec nous. Il est allé dans une première boîte dont j'ai oublié le nom, qu'ils ont revendu, qui était revendu à Quantcast. Il a démarré assez bas, puis il a rejoint le CEO après. Il a co-dirigé la boîte, ils l'ont vendu à Comcast. Et ensuite, il a rejoint Simlink, il est devenu CEO de la boîte. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire, une puissance de travail assez incroyable et une capacité à te restructurer une boîte, à la comprendre, à en tirer le meilleur, qui est vraiment intéressante. Jeune, bon, c'est un vrai. Sportif, c'est un peu un robot, mais c'est assez intéressant, ouais. Avec une approche très analytique, si tu veux,
Ok.
c'est pas nécessairement un gars. Il a pas
Machine.
une. Ouais, c'est une machine. C'est fort sympathique. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, moi qui ai un ami hein, maintenant, mais qui est. Oui, moi je suis plutôt sur l'inspiration, les idées, les nouvelles choses. Et un peu moins sur l'efficacité, lui c'est le CEO efficace. Il structure ça, il t'organise et c'est parti. Et ça fait quelque chose. Et il y a Franck Luer qui est un vieux de la vieille aussi sur Internet. Je ne sais pas si tu le connais, il a fait Notify qui est pour moi un des meilleurs pitchs. Il me l'a pitché il y a 2-3 ans et c'était d'une limpidité et j'ai trouvé ça assez super. Bon, c'est un mec qui connaît. Très bien, très très bien Internet. Vendeur, lui, je crois qu'il était sur Page France au tout début d'Internet. Donc, c'est un vieux routier d'Internet avec un concept qui était assez simple. Qui disait, l'idée, c'est de savoir quand tu passes sur un site web et t'envoyer des newsletters au moment où tu es sur Internet. Comme ça, ta newsletter elle a plus de chances de marcher. Donc, il t'envoie en live ton email dès qu'on a détecté ton activité. Et
Intéressant.
ça fait des choses extrêmement efficaces. Et ça s'explique en 2 secondes. Et ce que j'ai compris aussi, par exemple, tu vois, avec les réseaux sociaux, voilà, ça c'est peut-être la question que tu aurais pu me poser. Pourquoi est-ce que ça foirait un peu Ulink? Et la réponse à cette question, c'est parce que je n'étais pas vraiment capable de le pitcher en 30 secondes.
OK.
Avec nos CRM, c'est extrêmement facile. Le besoin, il est clair, tout le monde veut faire des relances, on apporte une solution, en 2 secondes, c'est expliqué, quoi. Et ça fait beaucoup de bien de pouvoir vendre un produit que tu peux expliquer en 2 secondes. Ulink Pro, c'était un peu vague sur les gains, les bénéfices, l'intérêt, le travail collaboratif.
Le positionnement n'était pas clair, quoi, dans vos têtes.
Bah, dans nos têtes, c'était assez clair,
Oui.
mais le problème que ça résolvait n'était pas assez clair. En tout cas, il n'était pas assez ressenti. Et en fait, à un moment donné, les gens, ils achètent pour résoudre des problèmes, quoi. Tu n'achètes pas un produit sur un problème dont tu n'as pas perçu vraiment l'existence et l'importance.
Ok, très bien. Bah, merci à toi, Sony, pour cet échange.
Merci.
Et puis, bah, très vite sur Serial Entrepreneur et puis sur nos CRM aussi.